Chapitre 2. Juste devant moi, trois petites fillettes traversent en chahutant, escortées par une maman qui prend très au sérieux son rôle de garde du corps. Elles rient, complices et insouciantes. Elles se poursuivent en virevoltant joyeusement. Le passage piéton est à peine assez large pour encadrer leur cavalcade. Elles sont sans doute trop âgées pour croire encore au Père Noël, mais encore assez jeunes pour continuer à tout espérer de la vie. Elles sont emmitouflées de doudounes et d'écharpes. Leurs pantalons de sport et leurs longs cheveux noués en queue de cheval laissent supposer qu'elles rejoignent le complexe urbain de loisirs juste en face. Un ancien centre commercial qui n'a jamais vraiment décollé. La ville l'a finalement racheté pour le reconvertir en centre sportif. Trois cabris qui bondissent sur le trottoir avec beaucoup plus d'élan et d'énergie que nécessaire. À leur âge, on donne tout ce que l'on a sans compter. Étant donné la vitalité débordante dont elles font preuve, elles pourront se passer d'échauffement. Dans sa base secrète, le type qui réalise la bande-son a particulièrement réussi son coup. Il a peut-être même reçu l'appui de la fée des moments magiques, tant je suis touchée. Quelques notes d'une mélodie de Noël échappée d'un magasin, un très léger brouillard qui nimbe les lueurs des néons et des réverbères, un brouhaha étouffé qui ne couvre pas les éclats hilars du trio de gamines, dont une me ressemble un peu lorsque j'étais petite. Je la regarde. Pour être tout à fait honnête, je la dévore des yeux. Son sourire, sa joie de vivre, je suis littéralement hypnotisée. Ces trois fillettes ne se soucient pas du regard des autres. Elles vivent l'instant, se contentant simplement d'incarner les émotions qui les traversent. Un luxe offert gracieusement au commencement de la vie, mais dont le prix ne cesse d'augmenter avec les années. Ces trois mignonnes tornades de liberté n'en finissent pas de m'émerveiller, fabuleuse perfection de puissance et de légèreté. Pas besoin de les connaître pour savoir qu'elles ont envie de tout. Vivre, aimer, partager, s'amuser, découvrir, ressentir. Elles ignorent la demi-mesure, les compromis. Aucune chance qu'elles puissent connaître le sens du mot « renoncement ». On l'apprend bien plus tard. Je les trouve extraordinaires. Je les envie, mais sans aucune jalousie. Tout au plus une nostalgie, immédiatement suivie d'une question qui se pointe à l'improviste en profitant que la porte est ouverte. C'est bien connu. Les questions n'attendent surtout pas d'être invitées pour débarquer et elles ne demandent pas si elles dérangent. Elles forcent votre entrée mentale sans s'essuyer les pieds. J'ai été comme ces petiotes, il n'y a pas si longtemps. J'ignore quel sport elles vont pratiquer. Moi, c'était le volley. Nous étions une belle bande, solidaire, proche, infatigable, éperdument vivante. Il y en avait toujours une survoltée pour embarquer les autres. Notre entraîneur nous comparait à une portée de chiot aussi adorable qu'indisciplinée. Que s'est-il passé depuis? Qu'est devenu l'enfant que j'étais? Qu'ai-je fait de mon stock de rêves, de mes gisements d'espoir, de mon appétit d'avenir? Je n'entends soudain plus le monde ni sa bande sonore, tant ces questions résonnent. Elles font trembler mes murs, fissurent mes fondations. Durant ces quelques dizaines de secondes où je reste bloquée au feu rouge, une faille temporelle s'ouvre en moi. Un sentiment rampant s'immisce, et ce n'est assurément pas la satisfaction d'avoir lâché le guidon en fermant les yeux. Je vais quand même m'écraser quelque part, intérieurement. Je ne suis pas de nature à me plaindre. J'en vois tout autour de moi qui passent leur temps à se noyer dans un verre d'eau, toujours à se lamenter sans jamais rien résoudre. Je n'ai pas envie de leur ressembler. Je ne souffre d'aucune maladie. J'ai un toit sur la tête, un frigo rempli, ma famille est en bonne santé, j'ai d'excellentes amies. Je ne suis même pas célibataire. J'ai conscience de ne pas être la plus mal lotie. Chaque jour, à l'hôpital, ce dont je suis témoin me rappelle que l'on peut toujours trouver plus grave que son propre cas. N'empêche, je n'exulte pas pour autant. Les malheurs auxquels j'échappe ne m'aident pas à me sentir mieux. Pourquoi, sans être malheureuse, ne suis-je pas heureuse? N'avoir aucune catastrophe à affronter est-il suffisant pour ne rien changer à ma vie? Puis-je me satisfaire de simplement continuer sur ma lancée? Pourquoi, confrontée au frémissement de ces merveilleuses enfants, ai-je brusquement l'impression d'être si vide? Où est passé mon élan? Ces satanées questions sont en train de cochonner mon intérieur mental avec leurs gros sabots. Même en démarrant en roue arrière dès que le feu passera au vert, même en pédalant à fond au point de me faire flasher, je ne vais pas réussir à les semer. La course-poursuite est perdue d'avance. Ces saletés de pensées torves sont assises sur mon porte-bagages et m'enlacent de leurs bras visqueux. jusqu'à m'empêcher de respirer. Pas question de me laisser glisser sur le toboggan du misérabilisme. Néanmoins, mon désarroi est bien réel. Si j'accepte de poser les mots sans tricher, ce qui résume le mieux mon ressenti, c'est la déception. Ma vie m'ennuie. J'ai l'impression de faire du surplace. Je n'attends pas grand-chose et plus rien ne m'excite. Alors que beaucoup de mes proches ont des projets et avancent, moi, je reste en rade. Entre ces petites filles, affamées du monde, et moi, entre celles qui sont prêtes à tout dévorer et la jeune femme que je suis, il n'existe vraisemblablement qu'une seule différence. Je commence à connaître les plats qui composent le menu de l'existence et parfois, je préfère sauter un repas parce que certains sont écœurants et donnent des boutons. Alors quoi? Que signifie cette lassitude à mon âge? Pourquoi cette impression lancinante que je suis en train de perdre mon temps, de passer à côté de ma grande aventure? Je peux toujours essayer de me convaincre que c'est juste un état d'âme, que ça passera. Je l'ai déjà fait, mais ce vilain sentiment finit par revenir. Il est là, tapis, et il grandit. Ferais-je partie des éternelles insatisfaites? Celles qui sont toujours à se plaindre, comme le leur reprochent les plus hargneux en puisant dans leur arsenal de clichés? À moins que les temples que nous bâtissons en nous pour accueillir ces trésors d'espoir ne soient trop vastes pour ce que la réalité nous permet d'y placer. Prenons l'exemple de ma vie sentimentale, chapitre essentiel d'une destinée, peut-être même le plus important de tous. Je vous disais tout à l'heure que je n'étais pas célibataire. Je m'aperçois que ma formulation trahit déjà la situation. Je ne suis pas célibataire. Cela ne signifie pas pour autant que je suis en couple. Du moins, pas comme je l'espérais. Il est gentil, Enzo. Il n'est pas laid. De temps en temps, il me fait même bien rire. Mais puisqu'on en est aux confidences, les quelques cases qu'il coche n'en font pas le compagnon que j'imaginais. Pourquoi alors suis-je avec lui? Je n'ai pas besoin de creuser profond pour trouver la réponse. C'est terrible, mais j'ai pris ce que je trouvais de mieux dans ce qui était disponible. Rien qu'en le disant, je me fais l'impression de raconter une séance de shopping à moitié réussie. Avant de rencontrer Enzo, je ne trébuchais pas tous les 2 mètres sur des chevaliers servants qui, un genou à terre et une rose rouge en offrande, me suppliaient de devenir leur reine. Alors j'ai pris ce qui m'allait à peu près. Il n'y avait pas exactement ma taille dans la boutique, mais je n'allais quand même pas me balader toute nue. J'espère ne pas vous choquer en étant franche, mais ces petites filles éclatantes me forcent à ouvrir les yeux. Si l'on veut s'en sortir, le diagnostic doit être le plus précis possible. Je le constate tous les jours à l'hôpital, et comme le dit ma tante Florence, on ne répare pas la chaudière en accusant les radiateurs. Je crois que j'ai le brûleur encrassé. Le feu passe au vert. Je ne bouge pas. Le trio pénètre dans le complexe de loisirs et disparaît, me laissant seule avec ma farandole de questions. On klaxonne déjà pour que j'avance. Je ne vais pas y arriver. Les doutes qui se sont installés sur mon porte-bagage pèsent trop lourd. Il faudrait un gros hélico pour les soulever. S'il pouvait aller les balancer quelque part dans un gouffre très loin, ça m'arrangerait. Je n'ai pas choisi de m'infliger cette prise de conscience ce soir sur mon vélo, mais puisque c'est arrivé, autant ausculter ma vie à fond pour en avoir le cœur net. De toute façon, je ne vais pas pouvoir y échapper. Aucun anesthésiste ne pourra rendormir ma conscience. À tout seigneur, tout honneur, l'examen clinique va débuter par une petite visite à celui qui me sert d'homme. Dans la famille de ceux qui font ma vie, je demande le garçon.